France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous, c'est un compositeur surtout connu pour ses musiques de films que nous célébrons pour la deuxième semaine sur la 42e rue. Georges Van Parys a en effet composé un grand nombre de vaudevilles musicaux, d'opéras bouffes, d'opérettes. Il est né il y a quasiment 120 ans, le 7 juin 1902. Ses premières œuvres sont du théâtre musical. La semaine dernière, avec sa petite fille Nathalie Van Parys, nous explorions son travail entre les deux guerres, son succès, ses pièces simultanément à l'affiche, son goût pour le jazz, à l'époque où Maurice Yvain créait des opérettes inspirées par le son syncopé. Après-guerre, Georges Van Parys va dans les années 50 composer de grandes musiques de films. French Cancan de Jean Renoir, Fanfan la Tulipe de Christian Jacques avec Gérard Philippe, Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot, les films de Michel Audiard, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, Le Masque de Fer d'Henri Decoing. Mais il poursuit aussi son travail dans le théâtre musical. En 1946, c'est Virginie de Jazet, une opérette néoclassique, l'histoire d'une grande comédienne qui se déroule en 1847, une grande comédienne qui devient une grande admiratrice de Napoléon, avec de savoureux airs comme ce quintet de policiers.
Il se passe quelque chose d'étrange et de mystérieux, et d'en connaître la cause, je suis tout. Il se passe quelque chose d'étrange et de mystérieux, et d'en connaître la cause, je suis vraiment curieux.
Messieurs, la minute est grave, le quart d'heure est crucial. Oui, cette heure est celle des braves, et ce soir, oui, ce soir est fatal.
Et ce soir est fatal, oui, ce soir est fatal.
Et ce soir est fatal, oui, ce soir est fatal.
Il se passe quelque chose.
Messieurs, la minute est grave. Le quart d'heure, ce quart d'heure est crucial.
Il se passe quelque chose d'étrange.
Savons rien du tout. Aussi le roi et la reine peuvent bien compter sur nous.
Il se passe quelque chose d'étrange, de mystérieux. Et d'en connaître la cause, je suis tout à fait furieux.
Il se passe quelque chose d'étrange, et de mystérieux.
Et d'en connaître la cause, je suis vraiment curieux.
L'homme que j'aime est passé dans ce goût.
Il n'y a que lui,
il n'y a que lui, il n'y a que lui.
n'y pense point. Nous sommes deux amoureuses, l'une heureuse, l'autre non. Demain, le destin peut faire le contraire sans raison. Demain, je puis être aimée ou laissée, mais tant pis, le bonheur, il faut le prendre ou l'attendre, c'est ainsi. Ne cherchons pas trop, aimons vite, avant que l'amour ne nous quitte. Mais pour aujourd'hui, il n'y a que lui. Oui, pour aujourd'hui, il n'y a que lui.
Opérette, comédie musicale, je ne sais plus très bien quoi dire. Opérette, signée Georges Vamparis. Ici, c'est une version à la télévision en 1968, réalisée par Georges Folgoas, avec Marina Hotin dans le rôle-titre de Virginie Desjazet, et auparavant, donc, le Quintet des policiers, une opérette de Jean Marsan. Ça nous racontait quoi? Je vous laisse désannoncer après le reste. Oui. Qui chantait là, à ce moment-là? Alors, et qui chantait quoi?
Là, on a Marina Hotin qui donc, jouait le rôle de Frétillon à la création, parce que c'était Fanny Revoil qui avait fait le rôle de Virginie au départ. Là, pour l'émission de Georges Folgoas en 1968, Marina Hotin a pris le rôle de Virginie Desjazet, qu'elle chante admirablement, il faut le dire. Moi, c'est une des choses que j'ai préféré entendre. C'est la valse de Virginie, interprétée par Marina Hotin. Voilà.
Mais, et pourquoi elle danse la valse à ce moment-là, Virginie
Desjazet? Virginie Desjazet, c'est une grande vedette des années 1830 jusqu'à 1800. Même, je crois, elle a une carrière très tardive. Et elle joue, elle est soupçonnée d'être conspiratrice. Hein. On est à la veille de la révolution de 1848, dans l'action. Et donc, elle défend le retour de Louis-Napoléon de Bonaparte, qui va devenir Napoléon III. Et elle va lui présenter Paris. Voilà, c'est l'histoire, en fait. Mais sur ce fond d'intrigue politique, de conspiration, avec ce quintet des policiers donc, qui font leur enquête pour confondre Virginie Desjazet en tant que conspiratrice, on a aussi une intrigue, c'est-à-dire que les deux jeunes premières de cette opérette, Frétillon et Virginie, sont amoureux du même garçon qui s'appelle Arthur Bertrand, qui est un jeune poète. Voilà.
Qu'on va entendre dans pas longtemps.
Voilà.
Alors, avant, en fait, c'est un peu par hasard, si je comprends bien, que Georges Vamparis revient à l'opérette après la guerre. Je crois que c'est un jeune auteur qui s'appelle Jean Marsan qui vient lui proposer de créer cette opérette qu'il a écrit. Il voulait écrire autour de Virginie Desjazet, ce personnage.
Oui. Et alors, c'est la première collaboration avec Jean Marsan. Et c'est vrai que c'est un jeune auteur, et les comédiens, ça va être très fructueux, parce qu'ils vont avoir beaucoup de collaborations ensemble, ils s'aimaient beaucoup, ils avaient une très grande amitié. C'est vraiment, on peut dire Jean Marsan, Georges Vamparis, c'est un peu comme Jean Boyer et Georges Vamparis au cinéma, ce sont des gens qui ont vraiment aimé collaborer ensemble.
Le spectacle est créé dans un énorme théâtre, ce qui ne plaît pas énormément à Georges Vamparis. Il trouve que c'est trop grand. En fait, la critique ne l'épargne pas. Il aura toute sa carrière des problèmes avec la critique, mais il y a quand même quelqu'un qui écrit des choses très belles en 1946 sur lui. C'est Arthur Honegger dans le magazine Spectateur qui écrit « La partition se place nettement sous le sceau des classiques du genre Offenbach, Lecoq, Hervé. On sent le musicien qui sait écrire dans le style opéra bouffe, trop abandonné par les fabricants d'opérettes, jazz au swing, pour cause d'incapacité. »
Oui, bah écoutez, en fait, je crois qu'il craint la critique à ce moment-là parce qu'il est beaucoup joué. Parce qu'il y a aussi, en même temps, une reprise de Louis XIV, Une femme par jour qui se joue à l'Étoile. On va bientôt aussi donner la grande opérette à grand spectacle autour de Fernandel au Châtelet, Les chasseurs d'images. Et donc, ça fait évidemment qu'il est joué dans beaucoup de théâtres. Et effectivement, les critiques ne lui pardonnent pas. Mais de la part d'Arthur Honegger, pour lui, c'est un compliment d'un point de vue musical vraiment formidable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il le consigne dans ses mémoires.
Voici la chanson romantique de l'un des amoureux transis de Virginie Desjazet, composée par Georges Vamparis.
Sans plus romantique à l'excès, il pu se faire en effet que j'exagère, que je rédige des pamphlets ou que tout nu dans les forêts, vivant nos clairs, j'ai écrive des romans anglais, que j'enlève une nuit de mai, la femme d'un vizir très laid, dans ma galère. Vous qu'échouant dans ses projets, et je disparaisse à tout jamais, dans le fond du lac du Bourget, la triste affaire, la triste affaire. Car lorsqu'on est un romantique, on a la fibre poétique, on nage dans le fantastique, c'est magnifique. On idolâtre le moresque, les attaquants, les arabesques, et les pirates barbaresques, c'est titanesque. On est adoré par les pères, car nos amours sont éternels. Si nous les croyons infidèles, alors fidèles, alors fidèles. Bref, un romantique authentique porte des gilets rouges briques, ces pyramides alexandriques, c'est romantique. Grâce à vous, mes dignes tuteurs, j'ai pu modérer mes ardeurs trop généreuses. Je fréquente les bons faiseurs au lieu de vivre sans pudeur et sans valeuse. J'écris aux belles des fadeurs au lieu de faire des horreurs avec des dames de couleur fort dangereuses. Je préfère envoyer des fleurs, je suis romantique de cœur, mais je veux l'être sans couleur, la vie heureuse, la vie heureuse. Car lorsqu'on est un romantique, on est épique, on est lyrique, on est tragique, on est gothique, c'est magnifique. On lit des récits de torture, de paladins, de vierges pures, et d'assassins dans les tentures, en l'aventure. Pour un battement de paupières, de quelques belles ferronnières, ce ne sont que coups de rapière, c'est sanguinaire, c'est sanguinaire. Un romantique qui se pique doit se parler dans l'exotique, l'historique et le nostalgique, c'est romantique.
C'est l'école polytechnique, vive les gamins, les pétas. Tous les gens qui nous font la nique sont autant de gros bêtas. Grâce aux équations de tous les degrés, nous gouvernerons un jour l'univers. Tout le monde aura, bon gré ou mal gré, le binocle et le tavers. Binocle, binôme et picorne, voilà le symbole de l'X, vol de l'X. Binocle, binôme et picorne, voilà quels sont nos trois points fixes. Vive notre chère école, paradis des grands cerveaux, hors des amphis et de l'école, les hommes sont tous des vols. Abat, épine et sophocle, picorne, binôme et binocle, voilà, voilà les symboles de l'X.
Bol de l'X, bol de l'X,
bol de l'X, le de l'X. Vive les droites et les courbes, hors de l'X, point de salut. Tous les autres sont de la tourbe, et nous sommes les élus. L'école centrale et ses ingénieurs osent nous lancer leurs petits défis. Mais nous ferons fi de tous ces brailleurs, et nos fils feront fi de leurs fils. Binocle, binôme et picorne, voilà le symbole de l'X, vol de l'X. Binocle, binôme et picorne, voilà quels sont nos trois points fixes. Vive notre chère école, paradis des grands cerveaux, hors des amphis et de l'école, les hommes sont tous des veaux. Abat, épine et sophocle, picorne, binôme et binocle, voilà, voilà les symboles de l'X.
Bol de l'X, bol de
l'X, bol de l'X, le de l'X.
Une curiosité diffusée sur France Inter dans l'émission de Philippe Meyer. La prochaine fois, je vous le chanterai avec les comédiens de la Comédie Française, Christian Blanc, Serge Bagdasarian, qui reprenaient un air, alors on va dire quoi, d'un feuilleton musical de Georges van Paris, La Tour Eiffel qui tue.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
On explore la carrière dans le théâtre musical de ce grand compositeur de musique de film, Georges van Paris, avec sa petite fille. J'ai dit que c'est un feuilleton musical, mais en fait c'est complètement farfelu, c'est presque du Pierre Dac, cette Tour Eiffel qui tue. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors c'est un roman feuilleton musical, écrit par Guillaume Anoto, qui est, on est là, on est vraiment en plein dans la période du Saint-Germain-des-Prés des années 50, et donc l'écriture est évidemment beaucoup plus surréaliste, elle a un côté complètement différent. C'est une pièce tout à fait à part, hein, la Tour Eiffel qui tue, dans la carrière, on va dire, de Georges van Paris, qu'on connaît en tant que compositeur d'opérette, de comédie musicale. Mais là, c'est vraiment une expérience particulière qui est aussi due à la rencontre avec Guillaume Anoto, la collaboration avec Jean Marsan, et aussi la rencontre avec Michel Deré. Donc, on est en plein dans les cabarets des années 50.
Voilà. Alors, ça se moque donc des polytechniciens, parce qu'on se rappelle qu'au départ de la création de la Tour Eiffel, tous les polytechniciens raillaient Gustave Eiffel, qui n'avait pas fait l'X, quand même.
C'est
et
ça.
Donc, ça tourne autour de ça, l'histoire, c'est ça?
Oui, en fait, c'est l'histoire de trois polytechniciens qui sont complètement scandalisés à l'inauguration de ce monument qui, mathématiquement, devait s'écrouler au moment de la construction de sa seconde plateforme. Et donc, pour la discréditer, ils vont ourdir un horrible complot dans Paris, dans lequel, évidemment, des crimes seront commis et on accusera la Tour Eiffel qui tue.
Alors, cette œuvre n'est pas créée dans un théâtre, c'est créée dans un cabaret, je crois qu'il y a 30 tables. C'est vraiment une petite forme, ça ne dure même pas une heure. Et vous parliez de chansons surréalistes, moi ma préférée c'est celle-ci, qui s'intitule « Je suis enceinte de la Tour Eiffel ». C'est arrangé et dirigé pour l'orchestre par Michel Legrand.
Un jour mon papa m'a conduite chez un monsieur poli qui m'a fit pénétrer bien vite, toute nue dans son lit. Je crois que c'était sa manière de dicter son courrier. Quand il sut que je serais mère, il me prit en pitié. Très gentiment, il m'expliqua toute l'horreur de mon corps. Oh, plaignez-moi, je suis enceinte, enceinte de la Tour Eiffel. Vivait dans la crainte en attendant ses coups mortels. Mais pour moi c'est atroce, c'est bien pis que la mort. Elle m'a fait un gosse, oh quel sera son sort. Quel coup quand il faudra lui dire qu'il est un enfant naturel, que son père qu'il faut maudire n'est autre que la Tour Eiffel. Quel coup quand il faudra lui dire qu'il est fils de la Tour Eiffel.
La Tour Eiffel qui tue, un roman feuilleton musical signé Georges van Paris pour la musique. On va le découvrir maintenant, c'est aussi un grand farceur, votre grand-père, je trouve en tout cas. Il nous a laissé un nombre de pastiches incroyables et le plus célèbre est certainement une farce, encore une proposition de Jean Marsan. Les amours de Tristeuil, un chevalier parti pour les croisades, et de Brunehouille qu'il trouve à son retour marié à un autre. On est en 1950. Qu'est-ce que c'est que ce Tristeuil et Brunehouille, Nathalie van Paris?
Ça, c'est vraiment un clin d'œil complet. C'est complètement dans l'humour qu'ils pratiquaient tous les deux, Jean Marsan, Georges van Paris, d'écrire cette espèce de pastiche où effectivement un conférencier présente le plus sérieusement du monde un opéra et on assiste donc à la légende de Tristeuil parti pour les croisades et qui retrouve sa Brunehouille mariée à un autre et qui va séduire Rossini qui va en écrire le premier acte. Mais Rossini, étant préoccupé par la confection de ses tournes d'eau, va abandonner Tristeuil à son pauvre sort, et c'est Richard Wagner, etc. Et on a pendant 5 petits actes, donc évidemment ça dure 27 minutes, ce sont des petits extraits d'actes comme ça. Chaque compositeur va écrire à la manière de, donc Jean Paré s'écrit à la manière de Rossini, de Wagner, de Debussy, d'Offenbach et aussi, bien sûr, pour finir, de George Gershwin.
Alors justement, en 2002, France Culture présentait une nouvelle production de Tristeuil et Bruno Houille, avec l'ensemble sorti d'artistes sous la direction de Marc Schaeffer. Je vous propose d'entendre Frédéric Lodéon et l'orchestre interpréter la fin de Tristeuil et Bruno Houille.
La fatalité s'acharne. Offenbach abandonne à son tour, mais tout près de nous, George Gershwin, l'immortel compositeur de The Man I Love, de Porgy and Bess, se décide à achever l'œuvre à laquelle tant de génies ont déjà travaillé. Son premier soin est bien entendu de défendre, avec l'aide de son frère Ira, la cause des Noirs pour lesquels il a tant fait. Il suppose que, jetés dans la fosse commune après leur mort, nos quatre héros se sont trompés et ont pris, pour monter au ciel, les têtes de quatre Sénégalais et Sénégalaises exécutés en même temps qu'eux. Saint-Pierre lui-même, au début, se montre quelque peu raciste, mais tout s'arrangera grâce à un merveilleux lamento de style New Orleans qui attendrira Saint-Pierre, pourtant bien dur comme son nom l'indique. Et c'est dans un vibrant alléluia final que se terminera l'opéra inédit que nous vous présentons ce soir. Et voici donc le cinquième et dernier acte de Tristeuil et Bruno Houille par George Gershwin.
Saint-Pierre, on nous dit quand nous étions petits que si nous étions gentils, nous irions au paradis. Saint-Pierre, laisse-nous entrer au paradis, puisqu'on nous l'avait promis. Écoute nos cris. Mais nul ne répond aux pauvres esprits, errons sans abri dans la
Oui, je suis mécontent. Enfin, mécontent, je suis contrarié tout au moins. Je suis contrarié parce que je me suis aperçu récemment que je suis extrêmement plagié. Extrêmement plagié, et par des gens, des confrères, enfin, que j'estime généralement pas mal, n'est-ce pas? Par exemple, je vais vous citer un nom au hasard, Mozart, n'est-ce pas? Bien, Mozart m'a un petit peu copié, n'est-ce pas? J'avais écrit, il y a bien longtemps d'ailleurs, j'avais écrit une chanson pour Albert Préjean, c'était au début du film sonore, une chanson qui s'appelait « Si l'on ne s'était pas connu ». Chanson que Préjean chantait dans un soir de rafle. Et bien dernièrement, je me suis aperçu en ouvrant un recueil de sonatines de Mozart que Mozart s'est servi du thème que j'avais écrit pour Préjean et naturellement, au lieu d'un fox, il en a écrit une petite sonatine que je vais vous jouer si vous voulez pour vous montrer à quel point Mozart s'est servi de cette chanson de Préjean. Curieuse d'ailleurs, c'est pas le seul plagiat que cette chanson a suscité. Car si Mozart en a fait une petite sonate, Chopin, lui, pourtant, c'est un homme qui avait des idées, pourtant, n'est-ce pas bien? Chopin aussi s'en est servi. Chopin lui en a fait un nocturne. Voilà le nocturne que Chopin a écrit sur ma chanson.
On a reconnu la voix de Georges Vamparis qui racontait aussi comment tous ces compositeurs l'avaient copié. Non, mais c'était un vrai comique, votre grand-père Nathalie Vamparis. Comment il faisait pour... Il avait une méthode pour pasticher tous ces grands compositeurs qu'il connaissait sur le bout des doigts, on a l'impression.
Oui, il connaissait très bien le répertoire classique, mais aussi il aimait beaucoup écrire à la manière d'eux. C'est vraiment une manière qu'il a fait... au cinéma, parce que quand on pense aux Belles de Nuit, il écrit un quasi-concerto à la manière de Mozart pour l'ouverture des Belles de Nuit. Donc ça l'amusait beaucoup en fait d'écrire dans tous les styles. Et il raconte qu'il trouvait que c'était vraiment un exercice de style à chaque fois, que ce soit pour le cinéma ou pour le théâtre musical, de savoir écrire dans tous les styles.
Presque un exercice pour lui, nécessaire.
Oui, enfin, pas un exercice parce que c'était plutôt un amusement. Hein.
Alors, la lecture de ses mémoires sont géniales parce que, évidemment, il grandit en 1920-1930, donc il croise Reynaldo Hahn. Il parle de la création du boléro de Ravel, que les critiques boudent à l'époque. Il parle des comédies musicales américaines comme Nonna Nanette. Et alors, il déteste West Side Story. Je ne sais pas pourquoi.
Alors,
il déteste la
trop.
Musique.
Oui. Je ne sais, ça, je ne sais pas.
Pour lui, c'est pas de la musique, c'est pas de la vraie musique. Il adore, enfin, ouais, il parle de Bussy, de Maurice Ravel, mort jeune, qu'il vénère. On va encore l'entendre au piano, Georges Vamparis, pour un magnifique air qui est extrait d'une autre comédie musicale, La Reine-Mère, en 1951. Alors, on retourne encore dans les comédies musicales qui racontent le passé.
Alors, c'est vraiment dans l'écriture des années 50. C'est une pièce qui a été créée hein, presque au Théâtre du Quartier Latin en reprenant Tristeuil et Brunehaut, La Tour Eiffel qui tue. Donc, c'est vraiment tout un moment de sa carrière où il écrit des opéras bouffes à la manière vraiment plus bouffonne, plus comique. Et donc, là, c'est une pièce qui est entièrement écrite en argot, un argot très particulier, une langue de Pierre Devaux qui mélangeait l'argot parisien avec la langue de Brantôme. Enfin, c'est tout à fait spécial. Et il y a sept très, très, très jolies chansons qu'on va entendre maintenant, Les Roses de Chenonceau, qui, pour lui, était une de ses préférées.
Et alors, dans ses mémoires, il parle quand même de quelqu'un qui lui a certainement piqué la première mesure. On va l'entendre d'ailleurs juste après. Et effectivement, c'est troublant quand on écoute sur le pont de Coulincourt la chanson d'Irma la Douce de Marguerite Monod, qu'elle composera quelques années plus tard. On reconnaît exactement la même première mesure que Les Roses de Chenonceau. Georges Vanparis écrit dans ses mémoires « Si je n'avais pas autant d'estime pour Marguerite Monod, il y aurait un joli procès à gagner. » On écoute l'ensemble. Georges Vanparis au piano, la chanson et puis Irma la Douce par Colette Renard.
Adieu, tendre ménesse, rose de Chenonceau. Adieu, tendre ménesse, rose de Chenonceau.
À vous, parfaite dame, tracassiez ma flamme et bellissiez mes yeux en ces soirs de Touraine. À vous, Vénus, Hélène, je ne dis qu'un adieu. À vous, Vénus, Hélène, je ne dis qu'un adieu.
Je sais bien vous revoir tout le long de la Loire ou en quelques bourdeaux. Hélas, serez-moi rose ou serez trop éclose, rose de Chenonceau, ou serez trop.
Paris la nuit pour moi, c'est Paris boniment, la romance au néon qui se maquille et qui ment. Chagrin sec ou aux larmes, qu'est-ce que vous préférez? Y'a que du chagrin à boire et à pleurer. Oui, la nuit à Paris, tous les cafards sont gris, et ça fait comme un coup du mal par où ça passe. Viens bébé, viens chéri, j'ai de l'amour dans tes prix. Tu verras gros jaloux, faut que ça pleure ou que ça casse. J'ai beau me la raconter, j'y crois pas, j'y crois plus. J'ai le cafard et c'est tout, et y a pas de lenturlu, y a pas de chanson qui tienne. J'ai beau me la raconter, l'espoir, moins qu'il y en a, plus que c'est lourd à porter. Est-ce qu'il reviendra jamais, mon petit homme qui m'aimait? Vous vous en foutez tous, qui remet la douce en crève. Ben pour moi, vous savez, vous pouvez tous crever. Comme ça, j'aurai mes soirs pour le revoir en rêve. Tout de même à supposer, tout d'un coup qu'il reviendrait, ce serait comme qui dirait, ce serait le 14 juillet. Quelle fête, quelle nuit, quel boum, quel ciel et quel java. J'en ai les genoux qui tremblent, comme si qu'il était là. Tout mon martre avec moi ferait flamber sa joie en vert, en rouge, en bleu, comme un grand feu de Bengale. On danserait dans les rues et je croirais ce que je crois plus, que le bon Dieu pour sûr règne enfin sur Pigalle.
Et dire que Marguerite Monod, lorsqu'elle a composé Irma la Douce, a repris une mesure des Roses de Chenonceau de Georges Vamparis.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Avec un roi de la comédie musicale qu'on connaît très peu, Georges Vamparis, surtout connu pour ses musiques de films. Les années 50, ça va être les grands films, Casque d'or, Fanfan la Tulipe, Madame II de Max Ophuls, French Cancan et la fameuse chanson de la Complainte de la Butte. Et puis, en 1953, il y a quand même, au milieu de tout ça, une pièce de théâtre musical, encore du pastiche, Que d'eau. Alors, j'aime bien parce que dans ses mémoires, il raconte que c'est une opérette gay durant les inondations de Paris en 1910, qui ouvre le jour où il y a plein d'inondations dans toute la France. Hein.
Oui, elle a eu un petit peu une création un peu malheureuse. Cette pièce est une comédie musicale. La mise en scène était de Robert Derry, donc on est vraiment dans quelque chose aussi de très amusant. Voilà, créé au Théâtre Fontaine, qui raconte l'histoire de cette Madame Sautezune, qui est collectionneuse de trompes et qui doit marier son fils pour hériter de trompes rarissimes, dont la trompe Bignole Inca. Donc on est vraiment complètement dans la loufoquerie.
Mais qu'est-ce que vous appelez des trompes?
Les trompes, les instruments de musique, en fait.
D'accord.
Elle est collectionneuse d'instruments de musique.
Okay.
Donc, il lui manque la triple entrovionce du Japon et la trombignole Inca. Et donc, il faut absolument qu'elle marie ce fils pour avoir l'héritage qu'elle veut. Et donc, elle utilise tous les stratagèmes possibles et imaginables, dont aussi faire tourner les tables. Donc, voilà, on est complètement dans la loufoquerie. C'est Jean Marsan, bien sûr, qui est auteur du livret.
Et ce qu'on va entendre, c'est juste le moment où elle fait tourner les tables, table tournante, un enregistrement que vous nous avez apporté parce que vous avez créé une compagnie, vous êtes metteuse en scène, vous êtes chorégraphe, Nathalie Vamparis, et vous avez aussi créé une troupe qui s'appelle les Cavatines. Qu'est-ce que c'est que les Cavatines?
Alors, les Cavatines, c'est une compagnie. Et c'est vrai que ça m'a permis au début de retrouver tout ce répertoire de catalogue. C'est moi qui ai fait le catalogue aussi des œuvres de Georges Vamparis. Et avec l'aide de comédiens très talentueux, un merveilleux pianiste, des chanteurs, nous avons créé une petite compagnie pour retrouver, justement, recréer ce répertoire. Et dans le spectacle qui s'appelait Comme de bien entendu, où on remontait Tressée et Brenouille, on avait remonté aussi des extraits de Que d'eau.
Donc voici un extrait, Table tournante.
Avec Denis Chouillet au piano, Éléonore Graton, Nathalie Duong et Jean-Claude Fernandez.
Thank you. contentons-nous, baissons les yeux, tenons-nous par le petit doigt, soyons extrêmement sérieux, guettons les craquements du bois.
Ah mon Dieu, il me semble que ça trame.
Je n'ai pas la perlue, mais le guéridon remue.
Ah, j'en ai les mêmes moites, il s'épanche vers la droite.
J'ai le cœur qui bat vite, oui, le voilà qui s'agite.
Silence! Le voilà qui se balance.
Êtes-vous la chair esprit? Répondez, anjou démon. Frappez un coup si c'est oui. Frappez deux coups si c'est non. À quel bonheur, à quel bonheur, mes amis, nous avons de la veine, c'est le grand Ludwig van Beethoven. Mon cher Ludwig, je suis confuse de vous déranger pour si peu.
Nous vous présentons nos excuses, mais il faut vous faire un aveu.
Nous avons perdu un jeune homme qui se nomme Armand. Il a entre autres avantages un visage charmant. Par son retard, il nous affole, ce frivole loustique. Nous prions que de l'autre monde nous réponde Ludwig.
Aglaé, traduisez, vous avez l'habitude.
Je tâche de le faire avec exactitude. Le maître dit qu'il trouve étrange qu'on dérange Ludwig pour chercher au fond d'une conque un quelconque loustique.
Ah vraiment, c'est insupportable. Elle possède dans le résumé ancien. Que lorsqu'on fait tourner les tables, il est inévitable de tomber sur un musicien.
Voyez, le guéridon de nouveau quitte terre.
Pourvu que celui-ci ait meilleur caractère. Êtes-vous la chair esprit? Répondez, anjou démon. Frappez un coup si c'est oui. Frappez deux coups si c'est non. C'est inespéré, Frédéric Chopin vient nous rendre visite. Il est si complaisant et si bien élevé, questionnons-le bien vite.
Nous avons perdu un jeune homme qui se nomme Armand. Il a entre nos avantages un visage charmant. Par son retard, il nous affole, c'est frivole, loustique. Nous prions que de l'autre monde nous réponde Frédéric.
Ne vous excusez pas, nous comprenons très bien. Oui, ne commettez pas d'imprudence inutile. Vous avez bien raison, il fait un temps de chien. Allez vous reposer, vous êtes trop fragile.
Non vraiment, c'est insupportable. Elle possède tant de ciments anciens. Que lorsqu'on fait tourner les tables, il est inévitable de tomber sur un musicien.
Horreur, le guéridon fait d'effroyables sauts.
Horreur, c'est l'enfer tout entier qui nous donne l'assaut.
Arrêtons, arrêtons.
Sont en nombre, on peut mourir d'émotion. Ce sont de trop grandes ombres. Ce sont de trop grandes ombres pour répondre à nos questions.
Plus que lui au monde, il a tout pris dans mon cœur. Et de
chance, de la chance que la vie lui donne une amie aussi jolie.
Mon ami, le vieux compagnon de mon enfance, mon ami, les deux pauvres petites pannes gris. Quelquefois j'ai de la peine quand je pleure. Petit pas, il m'emmène, je vais à Califourchon, des sons trop légers qui me fait danser, je lui chante une chanson.
Ton ami a bien de la chance que la vie lui donne une amie aussi jolie.
Mon ami, le vieux compagnon de mon enfance, mon ami. Je sais qu'il m'aime bien. Ce n'est que tout petit âne, mais je sais qu'il m'aime bien.
Une curiosité, la ruée vers l'or, vue par Georges Vamparis. Oui. Ces mini moustaches avec, non mais c'est un truc improbable, les compagnons de la chanson.
Oui, ça a été créé autour des compagnons de la chanson, c'est vraiment fait pour eux. Et je pense que Georges Vamparis s'est quand même bien amusé à écrire pour 9 chanteurs. Et donc ça devait être assez amusant, oui.
C'est créé où et quand cette
Alors, c'est
comédie musicale qui s'appelle Mini Moustache.
Oui, c'est une œuvre de Jean Broussol qui fait partie des Compagnons d'ailleurs et André Ornez. La mise en scène est de Robert Manuel et ça a été créé à la Gaîté Lyrique.
Et ça marche ?
En 1956. Et ça marche assez bien. Je crois qu'il y a, même eu une retransmission radio, je crois, de cette opérette.
Et puis, il y aura encore des super productions. La plus grosse, ça sera à Strasbourg, d'ailleurs, pas à Paris, le Moulin sans souci. Il retrouve son ami Serge Weber, Marc Cab. C'est composé à nouveau avec Philippe Parès. Qu'est-ce que c'est, le Moulin sans souci, qui est, est-ce qu'on peut dire que c'est du néoclassique, pour le coup, et que c'est une opérette vraiment... dans le style de l'opérette presque viennoise.
Oui, c'est une opérette plus classique d'écriture, bien sûr, mais je trouve aussi qu'il y a un côté un peu cinématographique. Quand je réécoutais l'ouverture, je trouve que c'est pas une ouverture classique. Il y a cette écriture qui est vraiment la sienne, qui est aussi l'écriture des génériques. Et je trouve qu'il y a une composition dans la patte, la manière de faire, qui est assez cinématographique, en fait. Ça, c'est vraiment sa personnalité.
Ça parle de quoi, le Moulin sans souci ?
Oh, c'est une petite aussi un genre de vaudeville autour d'un meunier qui cache sa fille et qui la déguise en garçon parce qu'il y a dans la Prusse de Frédéric le Grand, on déshérite ses enfants, ce ne sont pas des hommes. Et donc pour sauver son moulin, il va, voilà, c'est tout le quiproquo qui est fait autour de cette Josepha. Voilà.
Voici l'ouverture du Moulin sans souci, composé par Georges Vamparis.
Thank you.
baiser. Quand revient le soir, tout redit l'espoir des serments repris, des baisers surpris. Et j'entends la voix de l'oiseau des bois, modulant pour nous ces chants si doux. Je sens en moi l'appel d'un désir nouveau. M'apparaît plus bleu, plus joyeux, plus beau. Est-ce l'amour qui vient de son vol léger, soudain près de moi se loger? Autour du blanc, dans le clair matin, vieux garçon, déjà, deux par deux sont là, qui l'on entend
C'est elle qui se déguise en garçon dans le moulin sans souci. Jeanine Michaud, l'air de Johann, l'orchestre colonne dirigé par Paul Bonneau. Nathalie Van Baris, vous avez bien voulu pendant deux émissions nous raconter la carrière de votre grand-père dans le théâtre musical. S'il fallait en réenregistrer une ou en remonter une, parce que finalement on n'a fait que des découvertes hein, pendant ces deux émissions, ça serait laquelle pour vous ?
Moi, je trouve que Virginie Desjazets, c'est une des très, très, très jolies. Et c'est vrai que dans les années 30, Lulu ou Louis XIV sont vraiment des morceaux d'anthologie de cette opérette jazz américaine avec énormément d'esprit, en fait.
Ça n'a jamais été remonté depuis plusieurs années ?
Non, à ma connaissance, pas. Pas celle-ci, celle que je vous cite. Alors après, bien sûr, on peut aussi, évidemment, ce serait formidable de remonter La Tour Eiffel qui tue, ou aussi Une femme par jour, et je crois qu'il y a certaines personnes qui y pensent. Mais voilà, il y en a certaines qui vraiment sont très particulières de son style.
Alors, il y a quand même eu un très bel album qui est sorti il y a quelques années autour des musiques de films de Jean Paris. Et dans le livret, Stéphane Lerouge, grand spécialiste de musique de films, disait que finalement, la patte de Jean Paris, c'était vraiment l'élégance française. Et qu'est-ce que vous diriez, vous, de la patte de votre grand-père en termes de musique ?
Ben, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment eu un talent mélodique formidable. Il était reconnu pour ça. Hein. Donc, en fait, c'est cette élégance, ce raffinement de la musique française qui ressort dans tout ce qu'il a fait. Cette manière de composer la musique à la manière d'eux, mais toujours avec élégance, avec raffinement. Et je crois que René Clair disait de lui « J'aimerais Georges Van Paris, ça serait mon ami si je n'aimais pas sa musique et, et j'aimerais sa musique s'il n'était n'était pas mon ami. » Donc je pense qu'il y a aussi cette amitié, cette facilité d'écriture, cet amusement, cet humour qui est vraiment la patte de Georges.
Oui. Et vous, quand vous étiez petite, vous aviez 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous le voyiez, il était toujours au piano, Georges Van Paris ?
Toujours au piano.
Ah oui ?
Toujours au piano. Il nous jouait des Ravel, des Debussy, comme ça pour l'amusement, pour nous faire connaître la musique en fait. Et il composait des soirées musicales avec les amis, avec les personnalités aussi de l'époque hein, qu'il rencontrait, parce qu'il avait vraiment un grand goût de l'amitié. Et pour lui, comme disait Jean-Paul Le Chanois, le métier se fait aussi autour d'une table avec des bons mets et des bons vins. Et je pense que c'est toute une génération et c'est un esprit qui était vraiment très, très typique de cette génération où on aimait s'amuser en travaillant.
Merci beaucoup Nathalie Van Paris.
Merci à vous Laurent.
On se quitte avec votre grand-père au piano qui interprète son air le plus célèbre.
Thank you.
Georges Van Paris au piano qui interprète sa complainte de la butte qu'il avait composée pour le film French Cancan de Jean Renoir. Vous retrouverez la programmation musicale sur la page de 42e rue, sur l'appli, le site Radio France. Et puis si vous voulez réécouter l'émission de la semaine dernière, la première partie de cette émission autour de Georges Van Paris, compositeur d'opérette, de comédie musicale et de théâtre musical, n'hésitez pas à podcaster, télécharger 42e rue sur l'appli Radio France et toutes les plateformes de musique en ligne. On se retrouve dimanche prochain, on sera en direct du Carreau du Temple pour un nouveau cabaret 42e rue. On vous fera notamment découvrir Elisabeth, une comédie musicale rock autour de Sissi, ultra célèbre en Allemagne et complètement inconnue en France, qui sera à l'affiche cet été du festival Bruxellon à Bruxelles. Merci à la technique, à Sébastien Royer, merci à Aude Vincent, à Lina, merci pour la préparation de cette émission, à Barbara Alotto et à Martine Moni, et puis merci à la réalisation, à Céline Parfenoff, Laurent Vallière, 42e rue. Je vous souhaite un très bon dimanche sur France Musique.
Rideau.
À réécouter sur francemusique.fr.